A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Yolande Zauberman est née dans une famille ashkénaze à Paris. Autrement dit, elle est née dans des histoires de famille où les mots Shoah, miracle, Russie, Pologne ont fait leur œuvre sur son imaginaire. Depuis, elle aussi nous raconte des histoires. Réalisatrice de films documentaires, « Would you have sex with an Arab ?» ou de fiction, « Moi Yvan, toi Abraham », la Zauberman est faite pour le perfecto, je le sens bien. Elle est faite pour dire son amour du monde, dans une élégance un peu rock. Le temps de garer sa moto et la voilà qui dégaine un livre succulent coécrit avec Paulina Nicole Spichovic intitulé « Les mots qui nous manquent ». Bonjour Yolande Zauberman.
Bonjour.
Soyons clairs, est-ce que vous avez pu garer votre Harley Davidson ?
Ce matin, je suis venue autrement.
Vous avez un look à avoir une moto.
Oui, c'est vrai, j'en ai une.
Vous en avez une ?
Oui, j'en ai une. Mais je me suis cassée deux fois l'épaule en 2 ans, donc je suis un peu prudente là.
Donc vous êtes une tatouée, une vraie ?
Oui.
Vous avez un petit tatouage, non, sur le poignet ?
Ça veut dire la vie. C'est 2 lettres hébraïques et ça veut dire la vie.
Bon, en tout
cas, je m'appelle Yolande à cause de ça, à cause du Y. Le Y, c'est Chai en hébreu, donc voilà.
En tout cas, pendant 1 heure, je sens bien que vous allez rouler pour un sol majeur.
Dono kotoba de ai というものを書きますか?
Dans quelle langue écrivez-vous l'amour?
Alors, en fait, vous disiez que c'était des mots qui étaient dans mon enfance, Shoah, miracle. En fait, ce qui était dans mon enfance, c'était le silence, c'était pas des mots. Et mon père avait interdit à ma mère de parler leur langue maternelle, en fait, le polonais. Parce qu'il était assez en rage contre leur pays. Et du coup, c'était pas le non-dit qui était ma langue maternelle, c'était vraiment le silence. Et d'une certaine manière, j'ai reçu toutes les autres langues comme des paradis à traverser. Je me sens aussi peu à l'aise dans aucune langue et aussi autant à l'aise dans toutes les langues, en fait.
Vous diriez que votre fascination, peut-être, pour la langue ou la chose linguistique vient de cette langue maternelle dont vous dites que c'est le silence?
Oui, je crois. Quand on a fait ce livre avec Paulina, Nicole Spichovic, qui est polonaise aussi par ailleurs, qui a aussi un problème de langue maternelle, puisqu'elle, elle est partie pour des raisons politiques quand elle était petite de Pologne, on avait l'impression de créer une langue maternelle universelle, avec des mots qui avaient résisté à la globalisation, puisque c'était des mots qui ne sont pas traduisibles. Et donc on avait l'impression de pénétrer dans des secrets collectifs de certaines cultures, et c'était magnifique, vraiment magnifique, parce que les mots, ça raconte pas d'histoire, ça raconte des histoires et ça raconte pas d'histoire.
Alors ces mots, ce sont des mots qui disent des choses dans d'autres langues.
Voilà, par exemple en Russie, il y a un mot très important qui est « zapoy ». Et « zapoy », ça veut dire « je suis sortie de chez moi, j'ai tout oublié, je me suis saoulée pendant 3 jours, je me suis confiée au premier venu, j'ai pris un train, je sais même pas où j'ai atterri. »
Il y a tout ça dans ce mot.
Il y a tout ça dans ce mot, et je reviens ou au travail ou chez moi, et je dis à ma femme ou à mon mec ou à mon patron, je dis « zapoy ». Et personne ne peut m'en vouloir, parce que ça arrive au moins une fois dans la vie de tout être humain, sinon c'est pas un être humain. Et donc voilà, des mots comme ça, ça donne en même temps les tolérances de certaines sociétés qui sont pas du tout les mêmes selon les pays. Moi je trouve qu'il faudrait un droit aux apoys, quoi.
Et je suis d'accord. Voilà. Mais comment est née cette idée de rassembler tous ces mots qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres?
En fait, un jour j'étais à New York et je regardais, moi j'ai le vertige, et je regardais des Indiens qui étaient en train de nettoyer des gratte-ciel. Et on m'a expliqué qu'ils venaient d'une tribu qui ignorait le mot vertige. Et je me suis dit qu'il y avait des mots dangereux à connaître, qui étaient un peu comme la pomme d'Adam.
Donc le mot vertige n'existe pas dans certaines tribus des Indiens, de certaines ethnies, mais par exemple, la danse érotique des femmes, ça n'appartient qu'aux langues africaines.
Oui, alors la danse, moi j'aime beaucoup la danse, Et on se rend compte que la danse est une forme de révolte magnifique, que la fête est une forme de révolte magnifique dans toutes les civilisations. Il y a aussi les danses de protestation sud-africaines, le toyi toyi. Voilà, c'est, tout d'un coup, on est proche de concepts comme ça, humains, essentiels. On se rend compte aussi qu'il y a des sociétés qui ont l'air très fermées aujourd'hui, qui étaient très ouvertes.
Vous le racontez bien avec ce lien à la langue arabe, puisque moi, ce que j'apprends avec votre livre, c'est que la notion d'amour qui déborde, par exemple, ça se dit essentiellement en arabe.
Oui, et l'angoisse aussi, c'est important.
Est-ce que mieux nommer l'angoisse, ça aide à travailler cette angoisse, vous pensez ?
Oui, parce qu'il y a des fois, il y a des mots, on se dit, ah ben, on n'est pas fou, en fait. Ce sentiment-là, il existe, il est même nommé par un mot. Parce que quand une langue utilise un mot unique pour nommer quelque chose qui nous demande des phrases entières, c'est que cette chose est essentielle dans sa culture. Et quand on rajoute ces sentiments les uns à côté des autres, on a le monde entier, quoi.
On trouve du tibétain, de l'argot romain, du sanskrit, de l'espéranto, du français nigérien, de l'inuit. Il y a peu de mots en hébreu.
Il y en a quelques-uns quand même.
Peu. Aguna, en hébreu. Une femme dont le mari a disparu ou s'est enfui et qui ne peut pas se remarier, sauf s'il revient pour divorcer ou s'il est prouvé qu'il est mort.
Oui, puis il y a des mots tels que vous parliez de Shoah tout à l'heure. De mémoire, ça veut dire, en fait, pour le peuple juif, il y a un petit os dans notre corps qui, s'il disparaît, fait qu'il n'y a plus rien. C'est l'anéantissement. Et même au temps du Messie, si le Messie devait arriver un jour, ce corps-là ne reviendrait jamais. Donc, en fait, c'est l'anéantissement total.
Des Juifs exclusivement ?
Non. La Shoah, c'est tuer les gens, les faire disparaître entièrement. C'est pour ça que l'incinération, d'ailleurs, est interdite. C'est parce qu'il faut que ces os restent là pour reprendre forme le jour du Messie, en fait.
H comme Holocauste.
Voilà, on va se poser donc sur ce mot Holocauste ou Shoah. Quand est-ce que vous avez, vous, découvert ce mot, Yolande Zoberman ?
Je l'ai découvert toute petite, enfin pas le mot d'ailleurs, le mot je l'ignorais, mais j'ai trouvé une photo cachée dans un livre quand j'étais enfant, quand j'avais, je sais pas, 3-4 ans. Et c'était un corps qui sortait d'un four crématoire, et en fait j'ai immédiatement compris ce que c'était. Et j'en ai quasiment jamais parlé. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, avec mon frère, j'ai réalisé que c'était ma mère qui avait ramené la photo de l'enfant. Ma mère avait acheté cette photo juste après la guerre dans un marché paysan en Pologne. Et en fait, il y avait la photo de l'enfant qui est très très connue avec la casquette et les mains. Et elle, en arrivant à Paris, elle les a données.
Qui est dans le ghetto de Varsovie.
Ouais.
Photo qui a fait le tour du monde, oui.
Ouais.
Moi, c'est votre mère qui a aidé à la diffusion de cette photo.
Ouais. Et en fait, je l'ai su que très très tard, de la même manière que je n'ai su quasiment qu'à la mort de mon père, qu'il s'occupait du musée de la Shoah en Israël et qu'il en était l'administrateur.
Mais vous n'avez pas... Enfin, il y avait une information comme quoi, disant que votre mère n'avait pas fait les camps, et vous avez mis du temps à croire cette information.
Enfin, c'est même pas à croire qu'elle n'avait pas fait les camps, à croire qu'elle avait passé la guerre en étant sauvée comme elle a été sauvée tout le temps. Ça me paraissait, mais juste incroyable. Et pourtant, c'était vrai.
Mais le miracle n'a pas eu lieu pour toute votre famille. Qu'est-il arrivé à votre grand-père maternel qui, lui, s'était échappé d'un camp ?
Ouais. En fait, il a rencontré des gens qui lui ont dit que sa femme et sa fille étaient mortes. Et il a décidé d'aller se rendre, c'était quasiment la fin de la guerre, d'aller se rendre à un camp et de faire sortir quelqu'un à sa place en demandant juste à le rencontrer. Visiblement, les gardes allemands ont accepté parce que c'était la fin de la guerre, ils voulaient avoir des témoignages pour eux. Il a rencontré cet homme, il lui a expliqué que lui ne ferait plus jamais de famille, donc ça ne servait à rien qu'il y vive. Et il lui demandait de faire une famille. Et cet homme est arrivé à Lublin après la guerre. Et là, il a su que ma mère et ma grand-mère étaient vivantes et que donc mon grand-père était mort pour rien, d'une certaine manière. Il s'est renseigné, il a su que mes oncles étaient libérés du côté russe et on ne pouvait pas passer du côté russe. Et il a été chercher mes oncles pour les ramener. Et depuis, il semblerait qu'il ait été passeur pendant de grandes années. Il a passé les frontières.
Vous êtes née dans un silence, Yolande Zobermann, peut-être une culture yiddish. En tout cas, est-ce que comme vos frères et sœurs, vous avez été, vous, à l'école juive, petite ?
Non. J'étais.
Vous savez pourquoi vous n'avez pas. Vous avez été la seule de la famille, de la fratrie, à ne pas aller dans une école
parce
juive ?
Parce que j'étais la plus jeune, parce que mes parents, je crois que mon père avait envie de. Il était très heureux d'être en France, il adorait la France, il était très reconnaissant à la France, et donc je pense qu'il m'a donné à la France. Et en fait, j'ai toujours eu une relation particulière. Moi, je suis en train de terminer un film là. Et c'est un film en yiddish, du yiddish qui se parle aujourd'hui. Et j'ai le sentiment de rentrer dans le monde de mes ancêtres, mais à travers une blessure. Le film se passe à Bnei Brak, c'est à 20 minutes de Tel Aviv. Et c'est le centre mondial de l'orthodoxie juive. Et je suis rentrée dans ce monde à travers la blessure de quelqu'un qui a été violé enfant par quelqu'un d'ultra-orthodoxe. Et en fait, c'est incroyable parce que j'avance avec ma caméra comme si j'étais dans un rêve et plein de gens viennent vers moi qui ont eu cette histoire. Et c'est juste extraordinaire de faire ça en yiddish. Et voilà, le rêve continue en fait. Ou le cauchemar. Ouais.
Vous avez...
les deux mélangés.
Vous avez eu l'impression d'être un peu à part dans cette famille ashkénaze du fait justement de ne pas avoir été à l'école juive. Et ce qui est drôle, c'est que pour votre premier long métrage, Moi, Yvan, toi, Abraham, que vous avez réalisé en 93, vous avez voulu travailler avec un enfant abandonné. Ça mériterait même presque une émission. Un enfant abandonné qui a peut-être réparé quelque chose. En tout cas, votre histoire se déroule dans la Russie des années 30, entre Yvan, qui est un petit garçon chrétien, et Abraham, petit garçon juif. Ils deviennent absolument inséparables et ils décident un jour de fuir le conflit autour de l'antisémitisme qui est en train de monter.
J'ai peur du noir. Tu veux bien me montrer ta bite ? J'ai jamais vu de bite circoncis. Et tu montreras la tienne ? D'accord. Maintenant, toi. Bientôt, je vais m'en aller. Chez moi, dans ma campagne. Tout le monde dit que je suis trop grand pour rester apprenti. Je m'en fous. De toute façon, tout le monde dit que je ne devrais pas être ton copain. Parce que je suis goy. Oui, parce que tu es goy.
Un extrait en sol majeur de Moi, Yvan, toi, Abraham sur RFI, Yolande Zobermann. Histoire de deux gamins qui connaissent donc le mot goy dans cette Russie antisémite, mais qui vont placer l'amitié au-dessus du langage, au-dessus de l'antisémitisme. Comment vous est venue cette idée de film ?
J'ai fait un rêve où j'étais avec un petit garçon que j'aimais beaucoup et on était dans le métro, tous les deux, on était enfants. Et il y avait plein de monde. Et en fait, il y avait une rafle au bout de... À la sortie du métro, il y avait une petite blonde qui arrivait, une petite peste qui disait à mon amoureux, viens avec moi, je vais te sauver. Et lui, j'ai eu très peur, elle lui disait, non, je reste avec elle. Et, Et donc, j'étais hyper contente et on est sortis tous les deux. Et effectivement, il y avait des bus, on montait dans des bus et on s'est mis à l'arrière du bus. Et là, on voyait des tablées incroyables de juifs avec des papillotes, des longs caftans, qui mangeaient des fruits que j'avais jamais vus. Et donc, on leur faisait des signes pour qu'ils s'en aillent. Et quand je me suis réveillée, j'étais pas du tout triste, j'étais au contraire magnifique. Et je me suis dit, mais je connais rien de ce monde dont je viens. Je vais aller voir. Et là, je suis tombée, j'ai eu une histoire incroyable. C'est-à-dire que mes deux parents viennent de Lublin, dans la même rue. Et on était à Lublin. Et en fait, le matin, j'ai vu mon passeport dans le tiroir du propriétaire de l'hôtel, en fait. Et on est parti, et puis j'ai enregistré l'image et j'ai rien dit. Et on est parti, et tout d'un coup, sur la route, j'ai fait, oh, j'ai mon passeport, j'ai pas pris mon passeport. Et à ce moment-là, il m'a regardé, Patrick, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, mais je crois que, en fait, voilà, moi, je suis pas du tout cimetière, mais tous mes ancêtres sont enterrés dans ce cimetière. Peut-être qu'il faut que j'y aille, peut-être que j'ai oublié. Il m'a dit, mais bien sûr, mais t'es folle, on a arrêté la voiture là. Je suis sortie de la voiture, et là, j'ai fait une chose que je ne fais jamais, il y avait un paysan. Et je lui ai dit, il y avait quelqu'un, un interprète, parce que moi je parle pas polonais. Et on a demandé, est-ce qu'il y avait un village juif ici? Il dit, oui, oui, moi, c'était là. Et d'ailleurs, moi, je travaillais chez les juifs, j'étais apprentie. Et je parle yiddish. Et tous les deux, on s'est mis à parler yiddish. Et il m'a raconté des choses incroyables. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte ici, c'était la vie. Il y avait du théâtre ambulant, il y avait du cinéma ambulant. Regarde, maintenant c'est mort. Et je lui ai dit, ça veut dire que tu les regrettes? Il m'a dit non. En même temps, à un moment, il me dit, mais pourquoi tu parles yiddish, toi? Tu travailles chez les juifs? Et j'ai dit, non, moi, je suis juive. Et là, il m'a dit, ah, yiddishekind, yiddishekind, ça veut dire une enfant juive. Et il m'a pris dans ses bras et je n'ai senti aucun antisémitisme dans ses bras. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je lui ai demandé s'il regrettait. Il m'a dit non. Et ce nom, j'ai essayé de le comprendre tout au long de ce trajet que j'ai fait. Cette vision un peu diabolique de l'autre, des juifs, des gitans, mais en même temps le diable tel que l'on conçoit à l'Est, c'est-à-dire le diable est important pour créer le monde. On confie son corps au diable, on va chez le médecin juif, on va même chez le rabbin plutôt qu'aller au tribunal, mais c'est quand même le diable.
Ben, je conseille ce film, moi, Yvan Antoine Ibrahim, qui est sans doute pas facile à trouver. C'est un film en noir et blanc magnifique, comme une plongée dans cette Russie des années 30, avec des scènes champêtres, des scènes dans des bouges, dans des synagogues. Et j'ai cru parfois me retrouver dans des archives, mais qui se mettraient à trembloter de vie, à vivre véritablement. Un peu de dissidence, en cadence. C'est l'heure en sol majeur de Vladimir Vysotsky, Yolande Zobermann. Bah, on est entre la Pologne et la Russie, là, tout à coup. Il n'y a pas besoin de parler russe, d'ailleurs, pour l'aimer Vysotsky, non?
Ouais, cette voix est incroyable.
Son мне желтые огни И хриплю во сне я По времени, по времени Утро Мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много. Много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад. И полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да их раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз.
La rage autant que l'amour dans la voix de Vladimir Vysotsky sur RFI, ça va comme un gant clouté à notre invitée Yolande Zobermann qui met les warnings hein, pendant 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Réalisatrice de documentaires, Classified People, Would You Have Sex With an Arab, et de fiction, Moi Yvan, Toi Abraham, Yolande Zoberman emmène souvent le tragique sur le terrain de l'amour. Rousse, russe, polonaise, ashkénaze, française quoi. Pour Yolande Zoberman qui se sent étrangère en tout et qui publie Les mots qui nous manquent, l'amour est un langage qui va de soi alors que le français, le polonais, le russe, c'est pas sûr. Est-ce que vous parlez le Andrei Vajda?
Pas vraiment.
Ah, on va voir ça. Je vous embarque quand même pour une minute dans Cendres et Diamants. Vajda plante sa caméra en plein armistice, le 7 mai 1945, où dans une petite ville assez loin de Varsovie, nationalistes et communistes cherchent encore à s'entretuer. Et on est là à la fin du film, au moment où le pays tangue entre tuerie et vodka. C'est, semble-t-il, la fin d'un monde dans une cave enfumée avec orchestre de jazz. Attention, c'est en polonais.
Chwileczkę, panowie.
Muzyka, ja się tańczy.
A moment. Czy jesteście, panowie, artystami, czy nie jesteście?
O tej godzinie? Panie dyrektorze.
Dla artysty pora nie powinna odgrywać żadnej roli. Żądam bezwzględnego posłuszeństwa. Tam, tadam, tadadadadam, tadam.
Kiedy to nie wyjdzie?
To my tego nigdy nie grali.
Nie przyjmuję żadnych wyjaśnień. Młody człowieku, adur, adur!
Yolande Zoberman, voilà un pop-corn très très sépia. Est-ce que ce film, Cendres et Diamants, réalisé en 58, est rentré dans votre univers de petite fille? Je parle de la petite fille qui se cachait sous le piano.
Pas vraiment.
Mais Vajda était important, non? Il y a eu une rencontre entre vous et...
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une rencontre entre moi et d'abord la Pologne à travers un petit garçon qui est arrivé à l'école et qui parlait pas français mais qui était très fort en mathématiques et qui nous faisait des cours au tableau de mathématiques. Et je me rendais compte que voilà, il y avait quelque chose où on se comprenait un peu physiquement en fait. Et quand j'étais en Pologne, c'était très physique, c'est-à-dire que les gens pensaient d'abord que j'étais vraiment polonaise. Je mangeais comme eux, par plein d'aspects, je suis polonaise.
Veut dire quoi, au fond?
Ça veut dire que, par exemple, quand j'étais en Pologne, je me disais en même temps une phrase de All About Eve, de Bette Davis, qui disait « Everybody has a heart except some people ».
Et en même temps, tout le monde a du cœur, sauf
certains. Et en même temps, je me sentais bien dans ma peau comme jamais je me suis sentie. C'est-à-dire, j'étais chez moi. Je comprenais tout. Enfin, je comprenais pas un mot, mais je comprenais tout dans le langage des corps. Il y avait un endroit où jamais je me suis sentie aussi bien.
Et quand vous entendez cette langue polonaise, alors, comme dans cet extrait du film de Vajda, ça vous fait quel effet?
Ça me terrorise un peu. Parce que c'est la langue interdite. Parce que mon père interdisait à ma mère de dire un mot de polonais. Et d'ailleurs, le jour où je suis partie en Pologne pour la première fois, je leur ai annoncé la veille de mon départ que je partais en Pologne. Et là, je leur ai dit, mais quand même, peut-être, donnez-moi l'adresse où vous habitiez, à Lublin et tout ça. Et j'ai vu mes parents pour la première fois parler polonais entre eux. Et j'ai eu pour la première fois l'impression d'avoir des parents jeunes, c'est-à-dire des parents qui étaient à l'aise dans leur langue. Et c'est là qu'est née d'ailleurs cette scène qui est dans Moi Yvan, qui est pour moi une des plus importantes, où la jeune fille dit « à partir de maintenant, j'aurai toujours un accent ».
Vous avez toujours voulu faire du cinéma, Yolande Zoberman?
J'imaginais pas une seconde, sauf qu'on m'a raconté que quand j'étais toute petite, moi j'étais très particulière, j'étais très silencieuse, je me cachais effectivement sous le piano tout le temps, je passais 18 heures par jour à rêver. Et il paraît que toute petite, je me suis retrouvée dans la rue à me déculoter. Mon frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, mais je fais du cinéma. Donc ça devait être là déjà.
Miroir. Est-ce que le mot miroir, ça va avec cette prière du Kippour, Yolande Zuberman?
Pendant le deuil, peut-être. Parce que pendant le deuil, on couvre les miroirs d'une couverture grise. Ce qui est une image très forte, en fait.
C'est pour marquer la disparition.
C'est pour marquer la disparition, c'est pour ne pas être dans l'égocentrisme. Le jour de Kippour, c'est une chose qui m'a toujours terrorisée depuis l'enfance, quoi. Moi, je suis pas religieuse du tout, mais c'est le seul jour où je vais à la synagogue aussi, peut-être avec Rosh Hashanah, le Nouvel An, et c'est terrorisant pour moi, mais comme une enfant, c'est-à-dire, j'adore cette terreur, quoi. J'ai l'impression que quelque chose va sortir du ciel et le, voilà. Et en même temps, on parle de Yiddish, on parle de tout ça. Moi, j'ai une allergie à la nostalgie. Je n'aime que le présent et le futur.
Mmh. Alors, je sais que chez les musulmans, le lien à l'image et à la représentation, c'est pas quelque chose de simple. Dans le judaïsme, il y a aussi des codes et des interdits, vous nous le disiez à l'instant. Vous avez quel rapport à l'image en tant que cinéaste de culture ashkénaze, j'ai envie de dire?
J'ai le rapport de mes rêves. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu dans les images 18 heures par jour. Je relançais mes rêves comme je voulais. Les premiers films...
Votre première caméra, c'est vos rêves.
Ouais, mais je pense que c'est la caméra de tout le monde, y compris les cauchemars. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas arrêter. Quand vous faites un cauchemar, vous ne pouvez pas dire « Non, là, j'arrête, je ne peux plus, je ne veux plus. » Vous êtes témoin de choses que vous ne voudriez pas voir. Enfin, voilà, donc c'est vraiment la première caméra qui agit.
Je vous emmène en Afrique du Sud, je ne sais pas si vous vous y êtes senti chez vous là-bas. En tout cas, votre premier documentaire s'intitule Classified People, donc sur la classification raciale en Afrique du Sud. Il a été réalisé en 87, donc en pleine apartheid. On a Doris, 71 ans, seconde épouse de Robert. Robert, 91 ans, avec ce fait historique, en 1914, il combat avec un régiment d'hommes de couleur. Il se marie avec une femme blanche, dont il a deux enfants classés blancs. En quoi l'apartheid vous a-t-il atteint? C'est la question qui est posée à Robert, mais c'est Doris qui répond.
He was in a colored army and in a French war.
Il avait été soldat, marié à une Française.
L'apartheid wasn't so bad, but when apartheid came very bad.
Quand l'apartheid s'est durci,
then the children were what?
Ses enfants ont été classés blancs.
Then he went forward to also be European.
Il pensait qu'il le serait aussi.
And that was the problem, but they wouldn't.
Mais ils l'ont refusé.
They wouldn't classify him because he was in a colored army.
And
made it split up.
Car il avait combattu avec les métis.
It's apartheid.
C'est ça, l'apartheid.
The government made it so that you couldn't multiracial with your own family.
Ça interdit tout mélange racial et les familles en sortent brisées.
You have to keep away. If you're colored, you're colored.
Si on est de couleur, on est de couleur.
So it split up our whole family like that, just through apartheid.
Sa famille n'y a pas résisté.
He should have joined the white regiment if he wanted to be.
Il aurait dû rejoindre un régiment de blancs.
So how
with happen? A white mother, German mother, see? So he should have gone to the white army when he wanted to go away.
Avec une mère allemande, il aurait dû combattre avec les blancs.
And he didn't do that. He went to the car. He signed on as colored. See?
Mais il s'est enrôlé avec les métis.
So the whole family went white.
Toute la famille est devenue blanche.
But the father there, that served his country, was thrown aside, put apart.
Mais le père, qui avait défendu son pays, a été isolé, rejeté.
So that was the nasty thing.
Ce n'est pas bien.
Pour un sol majeur sur RFI, un extrait de Classified People, un documentaire bouleversant, Yolande Zuberman, que vous avez donc tourné clandestinement.
Oui, j'aime bien la clandestinité.
Apparemment.
En fait, moi, je suis partie là-bas avec une question que je ne posais pas, mais qui était sous-jacente, et qui est comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on est désigné d'une certaine manière? Et voilà, ils m'ont répondu... en résistant dans l'intime.
En même temps, cette question raciale a pulvérisé de l'intérieur beaucoup de familles, dont l'histoire de Robert.
Oui, bien sûr, ça a pulvérisé. En fait, si vous voulez, l'histoire de la classification me paraissait essentielle. Et souvent, moi, je pose des questions de base. C'est-à-dire, la classification, comment ça marche? Comment on classifie un pays? Il y a tant de classifications en Afrique du Sud. Il y avait des blancs d'honneur, par exemple, les Japonais étaient des blancs d'honneur. Il y avait certains noirs américains qui pouvaient être des blancs d'honneur, entre guillemets. Donc, puis les droits.
Oui, mais il y avait des nuances dans ce qu'on appelle les colored.
Voilà, c'est ça.
Il y a une hiérarchie même à l'intérieur de cette catégorie. Mais ce qui est fou dans votre histoire, c'est que vous réalisez ça donc en pleine apartheid, en 87, clandestinement. On aurait bien aimé savoir ce que ça veut dire concrètement. Mais vous avez le pressentiment, malgré tout, Yolande Zoberman, que la fin de l'apartheid est possible ou proche.
Ben, si vous voulez, c'était tellement beau ce que j'ai vu, que si ça n'aboutissait pas à la fin de l'apartheid, c'était plus la peine de se battre pour
l'amour
rien.
Plus fort que n'importe quel système de catégorisation.
C'était inouï. Moi, j'ai assisté à des choses, mais tellement inouïes.
Par exemple.
Alors, par exemple, un jour, il y a un avocat qui nous dit, il faudrait, si vous assistez à un procès qui se passe dans la campagne, comme ça, ils essaient de noyer le poisson, mais il faudrait qu'il y ait le plus d'étrangers possible. Ils ont enfermé les gens de l'ANC, en fait, de plus en plus rapidement. Du coup, les leaders, quelquefois, ils étaient leaders depuis une semaine, ils étaient déjà enfermés. Et donc, c'est une salle de procès à l'anglaise, en fait, avec tout le monde au même niveau. Et l'avocat savait qu'il aurait au moins une ou deux libérations pour Noël. Et donc, les accusés ont dit d'accord, mais c'est nous qui décidons qui. Et ils se mettaient en mêlée de rugby et ils disaient « Non, mais toi, ta femme a accouché. Non, mais toi, ta femme, elle est malade. Non, mais toi, t'y vas parce que... » Et l'avocat a obtenu 5 ou 6 libérations. Et c'était... Mais toute la salle était en larmes, quoi. Il y avait une telle humanité que si ça, ça n'aboutissait pas à la fin de l'apartheid, rien ne sert à rien, en fait.
La question de la frontière est en tout cas au cœur de votre travail, Yolande, les juifs, les non-juifs, les blancs, les noirs, et puis les juifs et les arabes. Idée folle que vous avez eue pour votre doc magnifiquement intitulé « Would you have sex with an Arab ?» Est-ce que vous feriez l'amour avec un arabe ? Pourquoi cette question du désir est-elle si importante selon vous ?
Parce qu'elle traverse tout. D'abord, moi j'adore les couples d'ennemis.
Les couples d'ennemis.
Ouais, parce que je trouve que les ennemis, c'est des couples, c'est des relations particulières. De la même manière que les voisins, c'est pas la même chose que les amis. Je veux dire, c'est d'autres types de relations. Les ennemis, c'est d'autres types de relations. Ils se connaissent entre eux, ils se regardent et ils commencent à se ressembler à partir d'un moment. Et le désir, pour désirer quelqu'un, il faut le voir. C'est le contraire de l'idée de celui qu'on peut tuer. Pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut ne pas le voir. Je veux dire, il faut oublier l'humanité de l'autre pour pouvoir le faire disparaître. Pour le désir, c'est le contraire. Il faut le faire apparaître. Donc toute la question de « Would you have sex with an Arab ?» était pour moi essentielle, parce que c'était une dissymétrie sur le problème israélo-palestinien qui... Bon, toute cette histoire a commencé parce qu'on a écrit un scénario qui s'appelle « Golda et l'amant palestinien ». C'est les amours supposées de Golda Meir avec un jeune amant palestinien. Et cette histoire paraît absolument certaine au Liban et absolument impossible en Israël. Et cette dissymétrie m'a beaucoup intéressée. Pourquoi impossible ? Alors que chez les Juifs, les histoires d'amour sont extrêmement importantes. Elles sont presque au-dessus de tout. La reine Esther... Enfin, on a toujours entendu, on comprend que l'amour fasse traverser toutes les frontières. Il y a quelque chose de supra, en tout cas dans la tradition dans laquelle moi j'ai été élevée. Et là, non. Et ceux qui ont eu des histoires d'amour, des Israéliens juifs qui ont eu des histoires d'amour avec des Israéliens arabes, on a l'impression qu'ils ont avalé un petit bout de bombe atomique, quoi.
The penetration was the big fulfillment of the peace that I had in my soul.
Ça se passe dans les nuits interlopes de Tel Aviv, extrait en son majeur de Would You Have Sex With an Arab, avec cette jeune fille qui vous livre une réponse clé dans ce documentaire, Yolande Zuberman.
Oui, en fait, elle dit que voilà, quand elle a rencontré un garçon qui s'appelle Nasser et qui était palestinien, elle a tout de suite eu envie de faire l'amour avec lui parce que c'était une façon de dépasser le problème politique. Et en même temps, dès qu'ils ont fait l'amour, elle n'a pas oublié une seconde qu'elle faisait l'amour avec lui. Du coup, c'était la première fois où elle avait l'impression que c'était un acte entièrement politique à tout moment. Et en fait, vous n'avez pas passé la dernière phrase qui est assez drôle, où elle dit que c'est la plus mauvais coup qu'elle a eu dans sa vie, quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est en train de changer. J'ai pas vu des gens qui tout simplement se désiraient.
Vous parlez des couples ennemis.
Ouais. Mm-hmm. C'est grave, quoi, d'une certaine manière.
Donc c'est en train de se rigidifier, si j'ose dire.
Non. Je crois que c'est au contraire, dans la jeune génération, il y a des gens qui dépassent ça. Mais ça prend du temps et c'est deux nationalismes tellement forts qui se font face. Et qui rentre dans votre lit, quoi. On dit parfois que Israël est une dictature. Moi, je suis pas d'accord, mais je suis d'accord sur le fait que c'est une dictature des émotions. Et il faut sentir, voilà, faut sentir comme tout le monde.
Et qu'est-ce que vous diriez sur la situation des Palestiniens ? Est-ce que vous diriez qu'ils vivent un état d'apartheid en Israël ?
Je trouve qu'ils vivent un état très particulier qui est le leur, qui n'est pas l'apartheid. Mais qui a un état terrible. Mais vous savez, il y a plusieurs choses qui fonctionnent quand même entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est les voyous, le cinéma, la police. La police palestinienne travaille très bien avec la police israélienne. Les voyous israéliens travaillent très bien avec les voyous palestiniens. Je pense que c'est deux peuples qui ont tout pour s'entendre, sauf qu'ils ne peuvent pas s'entendre.
Il manque juste l'amour. Et je dis ça à une Ashkénaze qui, je crois, berce son mec en arabe. Oui ou non ?
Non, j'ai...
Et ça, est-ce que c'est politique, d'ailleurs, de bercer votre mec en arabe ?
Non, j'ai appris une ou deux chansons en arabe, c'est clair. En plus, on a eu une expérience assez longue en Égypte. Ma fille, je l'ai bercée en yiddish, effectivement, avec une chanson arabe. Et... Ouais, moi, j'aime bien, je pourrais avoir toutes les nationalités, quoi.
Je vous emmène en terre arabe, Yolande, puisque vous y avez quelques amours, dont Marcel Khalife, le Libanais, qu'on considère comme un Palestinien d'ailleurs, je crois, reprenant un poème de Mahmoud Darwish, le Palestinien, mais simplement le poète. Quelle sensation, Habibi, vous avez quand vous écoutez ce morceau Rita ?
En fait, c'est surtout l'histoire de Rita qui me bouleverse. Rita, donc, c'est Mahmoud Darwish, qui est le grand poète palestinien et qui est né en Israël, et qui est tombé amoureux de Rita, une Israélienne juive, et qui écrit ce poème « Entre Rita et moi, il y aura toujours un fusil ». Et en fait, pendant la guerre du Liban, tout le monde chantait deux chansons. La première, c'était « I will survive », et la deuxième, c'était « Rita ». Et l'idée d'un poète qui fait danser et chanter un peuple autour de l'amour qu'il aurait d'une Israélienne au moment où il y a des bombes israéliennes, pour moi c'est un des plus grands poètes du monde.
صمت العشية قمري هاجر بعيدا في العيون العسلية كان يا ما كان يا صمت العشية قمري هاجر في الصبح بعيدا في العيون والمدينة كنست كل المغنين وردت والمدينة.
Vous êtes bien sur RFI et dans les sables mouvants du Moyen-Orient avec la poésie de Darwish dans la bouche de Marcel Khalife pour le plus grand kiff, on va dire ça, de Yolande Zobermann.
Des ancêtres.
Vous êtes dans ça, vous, Yolande Zobermann, dans le culte des ancêtres ?
Non, je les aime bien, mes ancêtres. Hein. Je trouve que j'ai des bonnes racines, quoi. Il semblerait que le premier dont on connaît le nom de mes ancêtres, ce nom, c'est Barur Gilipte. Ça veut dire béni et l'aimé, celui qui est aimé. Et donc, c'est un très beau nom. Il était un disciple du Baal Shem Tov, celui qui a inventé le chassidisme. Est-ce que vous voulez que je raconte un peu qui est le Baal Shem Tov ?
Ah non, je veux bien, on va se quitter d'ailleurs sur une histoire, parce que je sais que vous êtes issu d'une famille où il y a plein d'histoires de vodka, de cosaques, etc. Est-ce que vous partageriez avec nous une des histoires familiales autour d'une figure d'un ancêtre ?
Bah, je peux raconter cette histoire fondatrice du racidisme. En fait, Baal Shem Tov, ce qu'il a fait, c'est qu'en arrivant, il a décidé que l'étude n'était plus que pour l'élite. Tout le monde avait le droit à l'étude de la Torah. Et donc, l'histoire fondatrice, c'est un paysan qui rentre dans une synagogue le jour de Kippour. Et tous les gens qui sont là, c'est effectivement l'élite. Et ils prient, ils attendent que le ciel s'ouvre et que Dieu apparaisse. Et Dieu n'apparaît pas. Et ils se tournent vers le paysan en disant « c'est ta faute, c'est ta faute ». Va-t'en, et donc le paysan très triste s'en va dans la forêt, et lui qui ne sait pas prier, jette au ciel toutes les lettres de l'alphabet en disant à Dieu, fais ta prière, et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Et voilà, c'est l'histoire d'un rapport émotionnel, et un rapport aussi au graphisme. D'ailleurs, le livre les mots qui nous manquent, le graphiste qui a fait la couverture du livre, c'est quelqu'un dont j'admire énormément le travail, qui s'appelle Philippe Appelwag. Et voilà, je vais raconter cette histoire parce que pour moi, toucher les lettres, c'est un peu comme toucher Dieu, quoi.
Donc à lire en poche, tellement votre livre a marché, Yolande Zobermann, Les mots qui nous manquent, un livre écrit à quatre mains avec
Paulina Michol-Spichowicz.
Je vous remercie. Et comme votre religion, j'ai cru comprendre que c'était l'amour, finalement, avant de rallumer votre portable, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi Michel Legrand et Nana Mouskouri. Quand on s'aime.
C'est beau, non ?
Magnifique.
Je l'adore.
On peut marcher sous la pluie, prendre le thé
à minuit,
passer l'été
à Paris. Quand on s'aime. Se croire à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok. Quand on s'aime,
on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs.
Prendre le thé
à minuit,
passer l'été
à Paris. square.
Ou dans un square de Bangkok.
De Bangkok.
Quand on s'aime.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et sur Pure Radio pour nous retrouver en podcast. Et puis derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. À demain.